et bienvenue. C'est comme un bruit court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter, dans tous les sons, dans tous les sens, avec des frontières, des hommes et des vautours. Enfin, des fonds vautours.
En direct depuis le studio 511, transformé en salle des marchés. Une émission réalisée multiservice par Jérôme Chélius, assisté de Lucie Valérie avec Florent Leyani à la technique aujourd'hui.
Au sommaire cette semaine, des frontières et des lois. Pour sauver le droit d'asile, c'est la grève à la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile. Et à Bruxelles, c'est un fonds vautour qui attaque la Belge pour pouvoir spéculer tranquille.
Personne ne quitte son pays parce qu'il le veut. Quand il demande une protection à la France, nous avons le devoir de faire en sorte que l'examen de leur demande se fasse dans de bonnes conditions. C'est notre devoir.
L'idée à l'œuvre dans notre portefeuille, c'est d'essayer autant que possible de gagner de l'argent tout le temps.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits?
J'ai entre les mains le journal Le Monde daté d'hier. Et je dois dire que rarement une une de journal n'avait aussi clairement exposé, à mon sens, les véritables maux qui rongent notre société. Il y a d'abord ceci. Macron donne le coup d'envoi des privatisations. Aéroport de Paris, la Française des Jeux, Engie, bref. L'État vend les bijoux de famille alors même que rien ne l'y oblige puisque l'économie française se porte bien. Juste en dessous, deuxième information, avec un chiffre qu'il est difficile à saisir tant le nombre de zéros déstabilise. 93 milliards 400 millions d'euros de profits pour les entreprises du CAC 40.
Qui ont engrangé des résultats spectaculaires en hausse de 24% cette année.
Ça fait 934 plus 8 zéros qui suivent.
Quand même. Et l'on se dit qu'à première vue, les années à venir promettent des hausses encore plus spectaculaires pour les multinationales françaises. Enfin, en plus petit, Le Monde nous informe que la BCE, la Banque Centrale Européenne, s'inquiète des salaires anormalement bas en Europe. Voilà trois informations qui, mises bout à bout, semblent éclairer assez nettement le contexte favorable à la montée de l'extrême droite partout en Europe. Mais ce ne sont pourtant pas ces faits-là que notre président a choisi de mettre en exergue en réagissant aux résultats du scrutin législatif en Italie et à la percée de l'extrême droite.
Dans le monde où nous vivons, on peut défendre des belles idées, mais on ne peut pas les défendre en faisant abstraction de la brutalité du contexte. Et l'Italie a aujourd'hui, indéniablement, souffert de la pression dans laquelle elle vit depuis des mois et des mois, et le contexte de très forte pression migratoire. Nous devons aussi le garder en tête pour ce qui nous concerne.
Voilà qui est dit. Exit les belles idées et Gérard Collomb, avec son projet de loi Asile et Immigration, va s'y atteler. Non sans opposition, puisque même les agents de la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, se sont mis en grève pour justement les défendre, ces belles idées, Antoine.
Oui, depuis le 13 février, les rapporteurs donc de la Cour nationale du droit d'asile sont mobilisés pour que justice soit rendue en bonne et due forme, dans l'esprit de la Convention de Genève de 1951.
Alors si en France on se mobilise pour défendre les belles idées et contre un projet de loi du gouvernement, en Belgique, GIF, c'est l'inverse. La société civile, elle, se mobilise pour soutenir une loi attaquée par un fonds vautour qui l'empêche de spéculer en paix.
C'est tellement gros qu'on dirait une fable. Ce mercredi, le fonds spéculatif NML Capital, basé dans les îles Caïmans, un paradis fiscal, attaquait l'État belge devant la Cour constitutionnelle pour faire annuler une loi sur les fonds vautours. Quand un financier veut réécrire la loi d'un pays, tout simplement. Il s'appelle Paul Singer et d'après Bloomberg, c'est l'investisseur le plus craint au monde. Son groupe Elliott Management pèse 16 milliards de dollars et a pour spécialité de racheter pour une bouchée de pain la dette publique d'État en banqueroute pour la leur faire payer jusqu'au dernier centime avec des bénéfices jusqu'à 2000%. C'est pas mal, avouez-le. Ces pratiques sont non seulement immorales, mais en plus elles mettent en terre des économies entières, des populations et leurs droits fondamentaux. Voilà pourquoi l'ONU encourage, je cite, à restreindre ses activités prédatrices, précisément ce que fait cette loi belge que Paul Singer veut abroger. Alors on a voulu aller retrouver des organisations de la société civile belge qui ont décidé de contre-attaquer en justice pour défendre la première loi au monde contre les faux vautours.
Comme un bruit qui court, une loi française qui attaque le droit d'asile pour expulser en toute tranquillité et un fonds vautour qui attaque la loi belge pour spéculer en paix, c'est jusqu'à 17h sur France Inter.
Mesdames et messieurs, nous arrivons à Bruxelles midi, notre terminus. Nous vous remercions d'avoir voyagé avec Paris.
Oui, les fonds vautours qui agissent, comme le nom l'indique, comme des rapaces. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, ces fonds vautours, ce sont des institutions financières qui achètent à très bas prix les titres de la dette d'un pays en difficulté.
Depuis quelques années, nous traversons une série de crises successives.
Exemple, ces dernières années en Argentine, au Pérou, mais aussi en Belgique.
Des proies !
Les années se suivent, mais pour autant, les crises ne se ressemblent pas.
Il a aussi fallu emprunter pour sauver les banques. Et emprunter à qui ? Aux banques ! Et boum la dette ! Et boum les intérêts !
Ah, ah, bruit, fou !
T'as pas entendu comme un bruit ?
Comment ?
Guy Vonctil,
Charlotte Perry,
Antoine Chao.
Comment ?
Hashtag comme un bruit.
Le train ici à destination de Gand-Saint-Pierre et Blankenberghe.
Alors Renaud Vivien, je vous retrouve parce que vous travaillez au CADTM ici en Belgique, le Comité pour l'abolition des dettes illégitimes.
Oui, c'est ça. En fait, je travaille sur la question des fonds vautours depuis maintenant presque 10 ans.
Et c'est pour ça que je viens vous trouver. Vous me dites si je me trompe, pour résumer. C'est des sociétés qui investissent de l'argent en rachetant la dette des pays pour une bouchée de pain, pour après faire cracher ces pays endettés et bassinés. Et le plus faible et le plus en débandade économique sont ces pays. Le plus facile, ça va être de les faire rembourser l'intégralité des sommes empruntées avec des intérêts, avec des pénalités, alors que eux nous l'ont acheté, je le rappelle, pour une bouchée de pain. En gros, est-ce que c'est à peu près ça ? Est-ce que vous pouvez me l'expliquer de manière un peu plus claire ?
Non, mais pour moi, c'était assez clair. C'est ça le principe. Et tout ça, ça fait des profits, selon les calculs de l'ONU, qui vont entre 300 et 2000%. Donc des plus-values.
Et fait rêver tout investisseur.
Ben oui, du point de vue d'un investisseur, c'est vrai que c'est rentable, mais c'est fait sur le dos des populations qui trinquent. Parce que leur but, c'est vraiment d'attendre le bon moment, c'est-à-dire le moment où l'État bénéficie d'un petit allègement de dette.
Et commence à sortir un peu la tête de l'eau.
Voilà. Dès que le pays va un peu mieux et solvable, entre guillemets, le fonds vautour va attaquer à ce moment-là l'État endetté en le traînant devant les tribunaux.
Vous dressez quelque part la liste des pays, Pérou, Congo-Brazzaville, Zambie, Vietnam, Libéria. Alors au début, on se dit, voilà, bah forcément, c'est des pays pauvres, des pays du tiers-monde ou en voie de développement. Mais voilà que ça se rapproche. Argentine, Grèce.
Donc la première attaque des fonds vautours, c'était en 1992. Le fonds Dart Management contre le Brésil. Ça, c'était en 92. Et 20 ans plus tard, en 2012, ce même fonds vautour existe toujours et c'est celui qui a attaqué la Grèce.
Ça se rapproche, quoi. C'est dans l'Europe continentale.
C'est ça. Et la Grèce, on a fait les frais en 2012 et 2013 en payant plein pot les fonds vautours.
C'est-à-dire que la Grèce grecque était à 1 milliard d'euros de dette. Et ils ont racheté ça pour 170 millions.
C'est ça. Les fonds vautours se sont fait un profit net de 500 millions d'euros. Ok ? Donc sur le dos de la population grecque qui subissait plein fouet les politiques d'austérité, une tactique totalement illégitime qui dure depuis maintenant 25 ans.
Pendant longtemps, on pensait qu'un État ne pouvait pas faire faillite. En effet, en théorie, tant qu'un État était libre de définir sa politique monétaire, il pouvait, toujours en théorie, émettre de la monnaie à sa guise et ainsi éponger ses dettes. Aujourd'hui, l'actualité nous prouve qu'un État, tout comme une entreprise, n'est pas à l'abri de la faillite.
Moi, président de la République.
Pour couvrir ses dépenses, un État peut emprunter de l'argent auprès de différents créanciers, notamment des institutions financières. Et c'est ce qui s'est passé récemment en Europe avec la crise grecque.
Alors justement, Renaud, tout ce que vous me décrivez là, ce mécanisme, moralement, je vois assez vite comment on peut le critiquer. C'est pas gentil, ça me fait penser à la phrase d'un de nos présidents qui disait « Mon adversaire, ce sera la finance ». Et bien là, pour le coup, elle est un peu incarnée. On voit des sociétés qui, passant d'un pays à l'autre, au gré des législations, font du monde entier un terrain de jeu pour pouvoir faire payer la dette. C'est toujours cette dette, qu'elle soit odieuse, illégitime ou inique. Mais il se trouve qu'en Belgique, voilà, qu'en juillet 2015, une loi passe pour arrêter ces pratiques.
Donc la loi s'attaque vraiment au métier même des fonds vautours. Mais parce qu'elle va plafonner le montant que pourront obtenir les fonds vautours en Belgique. Parce qu'elle supprime finalement l'intérêt à spéculer sur la dette. Et ça, c'est écrit dans la loi texto que c'est un avantage illégitime que poursuivent les fonds vautours.
Sauf que voilà, cette loi à l'avant-garde des législations mondiales sur ces questions-là, elle n'a pas du tout plu à Paul Singer, avait à la tête de son groupe Elliott Advisors, oui. Bloomberg l'appelle l'investisseur le plus craint au monde. Il est assis sur 16 milliards de dollars d'argent investi, oui. Et il a un tel sentiment d'impunité qu'il attaque votre beau pays, au cœur de l'Europe, la Belgique, pour faire interdire cette loi, la raison la de ma présence.
Annuler. Pour la faire annuler, mais à notre connaissance, c'est la première fois qu'il passe à cette étape-ci en s'attaquant directement à une loi, pour tout simplement l'annuler. Le vrai objectif de Paul Singer, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autres pays qui suivent l'exemple de la Belgique. C'est ça, il veut éviter que d'autres lois soient prises, parce que plus il y a de lois, plus son terrain de chasse se rétrécit.
Paul Singer, ce financier du Parti républicain, vient de faire plier l'Argentine.
Oui, il s'agit de Paul le vautour Singer. On l'appelle le vautour, et pas qu'en Argentine, mais c'est comme ça que l'appellent ses amis banquiers. Il récupère les vieilles dettes de compagnies ou d'États à l'agonie et extorque leur remboursement en disant si vous ne me payez pas, je vais vous empêcher d'emprunter de l'argent. Je vais mettre votre pays à genoux. Je veux dire, c'est tout simplement un pirate.
Paul Singer, il pèse plusieurs milliards de dollars. Il est actionnaire de sociétés comme de multinationales comme Monsanto, Samsung, etc.
Ah oui, donc c'est, vraiment c'est vraiment un bienfaiteur de l'humanité.
Ouais. Et le gars, aujourd'hui, il prétend vouloir remettre en cause un acte pris par un Parlement élu, quoi. Donc l'enjeu, il est vraiment là. Et c'est pour ça que nous, en fait, on s'est mobilisés au CNTM et avec d'autres organisations, le CNCD et le FELFELF, pour dire il faut non simplement protéger cette loi, donc la défendre, mais ça sera important pour ensuite l'internationaliser. Voilà, la mondialiser, si on peut dire ainsi.
C'est ça, la mondialisation dans l'autre sens.
La mondialisation dans l'autre sens, ouais. Et donc, aujourd'hui, on va être face à un seul adversaire, un seul et même adversaire, NML Capital, pour répondre aux arguments de NML Capital qui veut annuler cette loi belge.
Très bien, bah allons-y alors. Allons-y. Ils attendent. Monsieur Singer nous attend, tel des Don Quichotte.
Juillet 2015, vote de la loi en Belgique.
Unanimité rare au Parlement fédéral. Les 9 partis de la majorité de l'opposition veulent tous dire stop à la spéculation. C'est ce qu'on appelle en fait les fonds vautours.
Alors, les fonds vautours qui spéculent sur la dette des pays en difficulté ne peuvent pas venir en Belgique demander à saisir des biens pour se faire rembourser au-delà d'un prix raisonnable. Donc autrement dit, c'est rendre impossible l'enrichissement par certains spéculateurs au détriment de pays en difficulté ou de pays en voie de développement.
Voilà la place royale, c'est ici, non ?
Oui, c'est ici.
Nous voici sur la place royale. Que voyons-nous ? Une place équilibrée, très classique, sans aucune extravagance architecturale. Nous sommes ici au cœur d'un des lieux les plus importants de la ville. En effet, le lieu a toujours été lié au pouvoir. Vous y êtes ? Regardons à gauche maintenant.
So, the voter is there.
Ah oui.
Et la cour constitutionnelle est à côté, là.
Et voilà la place royale à Bruxelles, avec sa belle statue équestre.
Qui représente Godefroy de Bouillon.
Alors là-bas, on voit le musée. Et là, la cour constitutionnelle du Royaume des Belges.
La place est parfaitement symétrique.
C'est ici que doit avoir lieu le procès, aujourd'hui. Le fonds vautour LNM attaque l'État belge pour l'empêcher d'interdire la spéculation sur la dette des fonds vautours. Une loi votée à l'unanimité par les Belges et qu'un fonds de pension qui pèse quand même quelques 16 milliards de dollars et dirigé par monsieur Paul Singer a décidé que ça se passerait pas comme ça et que les Belges devraient laisser faire ses affaires.
Mais tout cela est une longue histoire que nous allons tenter de raconter ici. Regardons à gauche maintenant.
Bonjour et bienvenue dans cet épisode de l'économie pour tous.
Rappelons-nous quelque chose. La Banque de France a été créée en 1801 et jusqu'en 1974, ça fait quand même du temps. Hein,
Michel Rocard.
Elle finançait l'État sans intérêt. Mais en 1974, on a eu une loi stupéfiante qui s'appelle la loi bancaire, qui a interdit à l'État de se financer sans intérêt auprès de la Banque de France et qui a obligé les États à aller se financer sur le marché financier privé à 4 ou 5 %. Et du coup, notre dette, elle est maintenant à 90, 91% du produit national brut. C'est un peu effrayant. Ce qui veut donc dire d'abord que l'humanité a vécu quelques siècles en se finançant à l'œil et sans avoir de crise de la dette souveraine. Ça donne des idées tout de même.
Alors, voilà, la pluie a commencé à tomber, mais c'est pas très grave. Et là, je vois des militants qui ont bricolé une espèce de gigantesque marionnette de vautour qu'ils ont construit à plusieurs. Et vous-même, vous avez un superbe masque de vautour.
Sure, my name is Bodo Elmas. I work for a European network of NGOs that fights for the sustainable solutions of debt crisis.
Bodo, je m'appelle Bodo et je travaille pour le réseau européen pour le développement et la dette.
Yes, indeed.
Et alors là, on est en plein dans votre champ de bataille là, avec cette action par un fonds vautour.
Yes, indeed, it's a very important date for us today.
C'est un jour très important pour nous aujourd'hui, oui.
I think everyone in Europe should be concerned. I mean,
tout le monde en Europe devrait se sentir concerné.
Vulture funds are, well, probably the most problematic actors when it comes to the resolution of debt crisis today.
Aujourd'hui, les fonds vautours sont le principal problème quand il est question de résoudre les dettes.
I mean, the problem with them is that they're really delaying the solution of debt crisis. In Argentina, we had lawsuits for almost 10 years now.
Et mais le problème principal, c'est que ces fonds vautours, ils retardent le règlement de ces dossiers de dette. Par exemple, en Argentine, les procès qu'ont fait les fonds vautours à l'État argentin ont duré plus de 10 ans, ont retardé d'autant la remise sur pied de l'économie du pays.
And in the end, the vulture funds made a profit of more than $10 billion.
Et eux, au passage, ils ont pu gagner près de 10 milliards de dollars en tout.
Yeah. And they are basically free riders who are profiting from the goodwill of others.
C'est vraiment des francs-tireurs qui ne cherchent que leur propre intérêt en profitant des autres partenaires.
So they are trying to get rid of the Belgian law and we are here to defend the law.
Et c'est pour ça que nous on est là pour défendre cette loi belge que ces fonds vautours veulent détruire.
And you see how scared the vulture funds are. So
they
are.
Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point les fonds vautours ont peur de cette initiative belge.
So we hope that citizens all over Europe are going to the streets not just to support the Belgians here, but also to put pressure on the governments that at some point we have a European, a global solution that doesn't leave any space for vulture funds.
Et c'est pour ça qu'on espère que les Européens vont se battre, pas simplement par solidarité avec les Belges ici, mais qu'il y ait une pression qui soit faite sur les gouvernements pour qu'il y ait une législation européenne globale qui mette la pression sur ces fonds vautours une bonne fois pour toutes. Bon, bah allons voir ce vautour là justement qui est en train de se balader sur la place Royale à Bruxelles face au Conseil constitutionnel alors que le procès va bientôt commencer.
Merci
Thank
beaucoup.
You very much. Merci beaucoup. Il y a des petits enfants là qui sont en poussette et qui sont effrayés parce qu'il y a ce vautour gigantesque porté qui représente les fonds vautours justement, ceux qui dépècent les économies des pays pour leur intérêt. Et là, il y a la dame là, avec son bonnet. Ah oui, il attaque les gens en plus.
Eh ben, attention, il va vous manger. Attention, il va vous manger.
Il va manger quelqu'un.
Eh, écoutez, comme vous pouvez le voir, il y a un énorme vautour qui est en train d'attaquer bien 200 personnes qui sont rassemblées ici. Donc NML Capital est un fonds vautour qui pèse plusieurs milliards de dollars, qui a attaqué l'État belge, rien de moins. Donc là, on est rassemblés ici pour pousser l'État belge à absolument tenir bon et ne pas céder à NML Capital face à son intimidation, en l'occurrence le procès à la Cour constitutionnelle. Simon Perrin du CADTM.
Certains appellent notre travail du multistratégie, d'autres appellent ça de la performance absolue.
Paul Singer.
L'idée à l'œuvre dans notre portefeuille, c'est d'essayer autant que possible de gagner de l'argent tout le temps.
Je peux voir le panneau en flamand.
En flamand, Asgierfondsen eisen 85% van het budget gezondheid in Congo.
Alors ça veut dire qu'en Congo RDC, en Congo Kinshasa, 85% du budget...
Pour santé, ça va aller au fonds vautour.
C'est les fonds vautours qui vont être 85% du budget santé. Et vous, c'est quoi?
NML Capital versus Argentine, 2,2 milliards de dollars.
NML Capital, la même société qui poursuit l'État belge aujourd'hui, contre l'Argentine, 2,2 milliards volés.
Stop! Asile Fonsen, stop! Asile Fonsen, stop! Stop! Stop!
1,33 milliard de dollars, c'est le montant que deux fonds spéculatifs réclament à l'Argentine.
Depuis quelques heures maintenant, l'Argentine est en défaut de paiement. Les fonds Vautour, c'est Hedge Funds qui a réclamé avant minuit le versement de la totalité de la créance, à savoir 1,3 milliard de dollars.
La bataille s'est jouée devant les tribunaux américains.
2016.
L'Argentine a finalement obtenu une ristourne.
Le Sénat argentin a donné son feu vert au remboursement des fonds vautours américains NML Capital et Aurelius pour leur verser 4,6 milliards de dollars. C'est 75% de leur dû, 25 fois leur mise initiale. Ce règlement ne fait cependant pas l'unanimité.
L'inflation frappant surtout les plus démunis. Car c'est d'abord le secteur public qui a été dégraissé de dizaines de milliers de postes. Au total, ce sont près de 140 000 postes qui ont été supprimés dans tout le pays.
Je parle pas flamand, mais je suis sûr que ça veut dire stop au fond vautour.
Ouais, stop au fond vautour, c'est ça.
C'est la branche flamande du 11-11-11.
C'est un CD côté néerlandophone.
Oui, parce que là, pour le coup, c'est tous les Belges qui sont unanimement d'accord, le Parlement fédéral, flamand et wallon, ce qui est assez rare pour être souligné, pour voter cette loi pour empêcher les fonds vautours d'exercer.
Oui, c'est exact, c'était unanime. C'est de temps en temps, mais tu ne vois pas beaucoup.
Même si ça n'a pas de conséquences directement sur la Belgique, ces fonds.
Mais ça a des conséquences parce qu'on donne de l'argent aux certains pays, mais ils usent l'argent pour les fonds. Ça, ce n'est pas le but. On veut bien aider nos partenaires dans les pays, mais ce n'est pas pour l'intérêt du capital de les fonds.
C'est ça.
Comme ça, il y a une ligne directe.
Oui, l'argent qui est versé dans l'aide au développement peut être court-circuité.
C'est comme ça. Et on n'aime pas.
J'allais voir le meeting.
Ah oui, ça a parlé là. Deux minutes quand même pour vous expliquer pourquoi on est là, ce que c'est un fonds vautour. Donc les fonds vautours, ils sont la caricature de ce que peuvent être les conséquences de la spéculation. Les fonds vautours, comme un vautour, s'attaquent à des cadavres. C'est-à-dire qu'ils s'attaquent à des dettes qui sont devenues quasiment irrécupérables et qu'ils rachètent à très bas prix. Et puis ils vont utiliser tous les moyens qui sont à leur disposition devant les juridictions en Europe, aux États-Unis ou ailleurs pour essayer de récupérer ce qu'ils ont racheté à très bas prix au maximum du prix. Et donc les fonds vautours, ils peuvent faire de 300 à 2000% de bénéfices sur leur spéculation sur le dos des populations, principalement des populations du Sud. Pour vous donner un exemple, en 2002, le Malawi, qui était acculé à la famine, a été obligé de vendre ses stocks de maïs pour pouvoir rembourser sa dette auprès d'un fonds vautour. Et donc si on est là aujourd'hui, c'est pour désarmer ces fonds qui s'attaquent à travers une spéculation éhontée depuis les paradis fiscaux à la dette des États et donc à nos services publics et à ceux des pays du Sud.
Merci.
La Belgique, c'est moule.
C'est frites.
C'est diable rouge.
Son paradis fiscal pour les riches.
Et santé publique.
Je m'appelle Nicolas Van Neffel et je suis responsable du plaidoyer au CNCD 1111, qui est la coupole des ONG francophones en Belgique.
Et ce qui est assez incroyable pour nous autres Français, voilà des ONG, des organisations militantes qui prennent la défense des institutions attaquées par les spéculateurs.
Voilà.
C'est presque une fable.
C'est presque une fable. Donc on a évidemment notre rôle de société civile est d'être à un certain moment critique par rapport au gouvernement, mais être critique, c'est pas toujours négatif. Avoir un rôle critique, c'est savoir reconnaître aussi quand on avance. Et nous sommes là pour défendre la très bonne loi belge. Donc en effet, on est là avec des parlementaires pour défendre l'État belge face à un spéculateur.
Alors un mot sur ce Paul Singer qui a réussi à faire l'unanimité parmi les Belges, qui, rappelons-le, voilà, est un exploit.
Oui, il fait l'unanimité contre lui, évidemment. Hein. Paul Singer, c'est un spéculateur, un capitaliste américain qui est à la tête d'un fonds qui n'est évidemment pas basé aux États-Unis, mais aux îles Caïmans, un paradis fiscal, et qui s'est vraiment fait une spécialité d'aller racheter à très bas prix de la dette argentine, de la dette de pays africains, etc., et de faire des énormes profits sur cette base-là. Et c'est bien parce que la loi risque d'atteindre à ses profits qu'il a décidé d'attaquer ici. Donc il a bien compris que notre loi, elle était efficace. Et donc aujourd'hui, il veut être sûr de la tuer dans l'œuf pour que la France, par exemple, la Suisse, le Luxembourg, l'Espagne, etc., ne la reproduisent pas à l'avenir.
Et dernière question, est-ce que vous pensez que nous autres Français, on devait être vexés de ne pas être poursuivis par les fonds d'investissement? Parce que nous aussi, on a une loi, la loi Sapin 2, qui est censée empêcher la finance vautour.
Peut-être que ça veut dire qu'il faut encore améliorer la loi en France. Ne soyez surtout pas vexés, essayez de faire aussi bien.
Mesdames et messieurs, merci d'être venus nombreux. Mon premier cours s'intitule « La France au début du 21e siècle ». Oui, je ne céderai rien.
Je suis pour l'économie de marché.
Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
Comme je vous l'avais promis en 2009, nous avons mis fin au scandale des paradis fiscaux.
Blanc sur rouge, non, rien ne bouge.
Notre ami, c'est la finance.
La meilleure façon de soutenir que ça, c'est de travailler.
Voilà. Je suis pour la mondialisation. Fantastique.
Par conséquent, toute la question est d'essayer de comprendre, de tenter d'expliquer comment ces gens ont pu développer un mode de vie et une organisation sociale aussi.
Je ne connais pas la finance magique.
Bleu sur blanc, blanc sur rouge, rien ne bouge.
Fantastique.
Non, rien ne bouge.
Moi, président de la République.
Mais ce qui est fascinant dans cette société, c'est cette totale inconscience du séisme qui se prépare.
Oh, la pluie qui coule.
Voilà, comment on se retrouve dans une manifestation belge. Enfin, c'est plus une parade avec un gigantesque vautour, une batucada de tambours et des manifestants avec des slogans et des drapeaux en flamand et en wallon. Mais par contre, on ne bloque pas la circulation parce qu'on est des gens qui savent se tenir.
Antonio Gambini, je suis chercheur au CNCD 1111, qui est donc la coalition des ONG belges francophones de coopération, de développement et de solidarité internationale.
Alors expliquez-moi juste en quelques mots pourquoi nous, Français, comme les Belges, doivent se soucier, puisque nous ne sommes ni Grecs, ni Zambiens, ni Péruviens. Chacun ses problèmes avec les fonds financiers. Nous, on en a assez suffisamment avec notre dette française. Pourquoi on devrait se battre pour la dette des pays du tiers-monde?
Écoutez, d'abord pour un impératif de solidarité et d'humanité. Et après, aussi parce que si aujourd'hui la France et la Belgique, effectivement, sont bien cotées sur les marchés, et rien ne dit que demain ou après-demain, par exemple, s'il y a une nouvelle crise financière et qu'il faudra renflouer à nouveau à coups de dizaines de milliards d'euros les banques privées, eh bien ça pourrait créer une nouvelle crise financière qui pourrait aussi fragiliser la situation financière de la France ou de la Belgique ou d'autres pays européens.
D'un côté, NML Capital, un fonds dit vautour, et de l'autre, l'État belge et trois organisations non gouvernementales pour défendre cette loi qui vise précisément à couper les ailes à ces faux vautours.
Après ce dossier d'Éco Matin, Michel, un rendez-vous important cet après-midi à Bruxelles. La Cour constitutionnelle va examiner la demande d'un fonds d'investissement américain qui souhaite faire annuler la loi de 2015 sur les fonds vautours.
Voilà, maintenant les militants ont rangé les tambours, rangé les affiches et les panneaux. Ils sont remis en civil. Et c'est l'heure où une délégation d'entre eux se dirige de l'autre côté de la place royale, ici à Bruxelles, au Conseil constitutionnel. Après la partie expression populaire, c'est maintenant que la partie joute juridique va commencer.
Vingt autres personnes. On va déjà ouvrir la porte et comme ça, on compte les personnes qui rentrent.
Non, non, là.
Voilà, allez-y. Donc, il faut aller juste signaler.
D'accord.
Alors pourquoi un fonds d'investissement comme NML Capital prend-il la peine de combattre une loi belge dont le champ d'action est par nature assez limité?
Pour l'exemple, les fonds d'Ivotour ont bien compris le danger que ce type de loi se répande un peu partout dans le monde, le danger pour eux, évidemment, parce que ça pourrait compliquer, voire empêcher leur business. Je le rappelle, ils achètent un titre de dette, 10, 15 ou 20% de la valeur initiale de l'emprunt, pour récupérer 100% plus les intérêts et les pénalités.
Donc je m'appelle Olivier Sten et je suis avocat du Centre National pour la Coordination Développement 11-11-11, qui est une plateforme d'association de coopération au développement et de solidarité internationale. Le pendant néerlandophone, c'est 11-11-11 tout court, enfin ELF-ELF-ELF. Et alors il y a le Comité pour l'annulation des dettes illégitimes, qui lui est spécialisé sur la question de la dette.
Ça, c'est ce au nom de qui vous êtes exprimé à l'instant devant le Conseil constitutionnel belge, ce qui n'est pas rien, comme c'est la plus haute juridiction, non?
C'est la plus haute juridiction belge, oui.
Autant d'associations qui ont été qualifiées par la partie qui attaquait de lobby souterrain activiste qui était à l'origine de cette loi que justement le fonds vautour NML veut faire abroger.
Oui, absolument. Donc on était surpris de lire ça, un peu amusé aussi, franchement. C'est quand même surprenant. Ce cher monsieur Singer qui finance le Parti républicain aux États-Unis et le patron de NML Capital aurait sans doute beaucoup de leçons à donner à mes clients en termes de lobbyisme souterrain. Mais derrière Paul Singer, il y a un fonds dont on ne sait pas ce qu'il est. Et je trouve que cette opacité pose problème et qu'il y aurait déjà matière à s'interroger sur la légitimité à agir de groupes de ce genre qui choisissent l'opacité. Ben, s'ils la choisissent, ce serait logique que la Belgique leur dise « vous ne pouvez pas agir devant nos cours et tribunaux ».
Et c'est là où vous êtes arrivé à un point, en tant qu'avocat, dans votre plaidoirie, vous dites « et pour une fois, je vais faire un peu de morale et pas que du droit ». C'est une question éminemment morale aussi,
voilà.
Donc politique.
Oui, alors ça, il faudra l'expliquer, hein, parce que je crois que on a vu des articles qui parfois donnaient l'impression que dès qu'on agissait pour des motifs moraux ou altruistes, aussitôt on était un imbécile ou un naïf. Or, il faut quand même prévenir les gens et ceux qui tiennent ce genre de point de vue que finalement, si le législateur interdit de tuer, ce n'est pas seulement parce que c'est mauvais pour le business, c'est aussi parce que ce serait immoral de tuer. Et donc, dans cette même logique, c'est normal qu'un Parlement intervienne pour contrer des pratiques qui sont jugées immorales et affamer des pays, c'est une pratique qu'on a tendance à juger immorale et donc la Belgique réagit et c'est une très bonne chose.
Donc là maintenant, quelle va être l'échéance pour le rendu du délibéré? Ça peut prendre longtemps?
Ouais. ouais, ça peut prendre longtemps. En fait, je vais commencer à harceler le greffe d'ici quelques jours et je vais essayer de pas trop les embêter quand même et qu'ils puissent me dire à un moment quand est-ce que l'arrêt sera publié sur le site de la Cour constitutionnelle belge et puis après, j'aurai la date et je stresserai jusque-là.
Et il a des recours après NML Capital?
Non.
Donc c'est un jugement vraiment important pour la Belgique, mais aussi pour l'Europe.
Ah oui, je pense que d'autres États qui hésitent à prendre des lois doivent être en train de regarder vers la Belgique pour se demander, tiens, ben finalement, comment est-ce que la première loi tient le choc? Et en tenir compte au moment de faire leur propre choix par la suite.
Comme ils disent, ce n'est qu'un combat, continuons le début.
Voilà.
Alors ça c'est ma chanson que j'ai écrit pour faire trembler tous les gouvernements du monde. On est perdu, on croit plus rien, même les vieux ils ont capté qu'en fait notre président c'est pas lui qui dirige vraiment, que nos vrais chefs c'est des banquiers qui ont réussi mieux que lui, et c'est pour ça, droite ou gauche, eh ben non, ça reste à droite, tout le monde sait qu'on gagne les élections comme on vend des yaourts, simplement en passant à la télé tous les jours, même ma mère elle a capté que la crise n'existe pas, que c'est l'invention de certains gros riches pour vendre nos usines aux Chinois. Tout le monde a compris que les infos, ça sert juste à nous faire peur en nous montrant la merde des autres pour qu'on se contente de la nôtre. Alors vous, les beaux costards qui décidez de notre sort, ne nous laissez pas comme ça, ça fait trop peur, faites un effort. Manipulez-nous mieux, manipulez-nous mieux. Allez, juste un petit effort, on vous demande pas grand chose. Vous savez aussi bien que nous qu'on n'a pas inventé l'eau chaude. La plupart d'entre nous, on aime bien se contenter de peu. On cherche pas trop à réussir et encore moins à diriger. On n'a pas très envie de passer à la télé et encore moins envie d'être reconnu dans la rue. Manipulez-nous mieux, manipulez-nous mieux. Construisez vos piscines en fermant nos usines. Mais putain, faites-nous rêver, faites-nous croire que vous nous aimez.
Voilà qui nous éclaire sur le rôle des fonds vautours et des hommes comme Paul Singer, vautour parmi les vautours de la finance. N'empêche que tout cela n'est pas très sympa pour les oiseaux, les vautours, qui eux au moins jouent un rôle dans la chaîne alimentaire.
En tout cas, si vous voulez aller plus loin et pas vous faire manipuler mieux, comme le disait Didier Super, il y a le livre d'Éric Toussaint du CADTM, Le système d'aide. Et puis sur le site de l'émission, je vous conseille d'aller retrouver la vidéo, le court-métrage de fiction sur la dette par le CADTM au Festin des Rapaces.
Retour en France maintenant, où, je vous rassure, aucune loi contre les fonds vautours n'est à l'étude, mais où par contre on se mobilise contre un projet de loi pour expulser en paix, alors même que la France n'accueille que 20% des personnes qu'elle s'était engagée à accueillir dans le cadre de la crise migratoire.
Oui, le compte n'y est pas, et pourtant ils se démènent à la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, pour traiter les recours. Ils sont 434 agents permanents, dont 218 rapporteurs qui instruisent les dossiers des demandeurs d'asile. Et ils sont remontés depuis le 13 février, oui, c'est la grève à la CNDA qui a enregistré 53 581 demandes de recours en 2017 et a accordé plus de 8000 décisions de protection. C'est du boulot tout ça. Mais au-delà de défendre leurs conditions de travail, la logique comptable et l'accélération des cadences qui sont prônées par le texte de loi dit pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif, c'est aussi le droit d'asile dans son essence même, héritier de la Convention de Genève de 1951, que les grévistes veulent défendre. Tout comme les avocats du réseau Elena, spécialisés dans les demandes d'asile, qui ont rejoint le mouvement pour protéger le droit des réfugiés déjà bien fragiles et leur droit à une défense digne.
Asile en péril ! Asile en péril !
Justice de qualité pour le pays de la liberté. Voilà, on est devant la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA, la juridiction administrative examinant les recours formés contre les décisions prises par l'OFPRA, l'Office de protection des réfugiés et apatrides, portant sur les demandes d'asile. 35 rue Cuvier, 93 000 Montreuil. Affichage des décisions de jugement tous les jours d'audience à 11h et à 15h. CNDA on strike. CNDA né grève. CNDA en huelga. Les autres, je comprends pas, ouais. Lelou, Kakwena, Moudimou, Mou, CNDA, Toto. Alors CNDA en grève, hein, c'est ça, dans toutes les langues.
Toutes les langues, c'est ça. D'accord. CNDA en grève, simplement pour prévenir tous les requérants qu'il y avait une grève qui touchait la cour. Et du coup, on s'est permis de mettre les différentes pancartes dans les langues respectives qui sont les plus communes dans les salles d'audience pour prévenir tout le monde et que ça soit bien clair aussi. Que notre mouvement est pour tous et y compris pour les requérants pour le droit d'asile.
Asile en péril ! Asile en péril !
En russe, en anglais, en espagnol, en arabe, ouais.
Asile en péril !
Montreuil, 35 rue Cuvier, la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile. Des moyens nécessaires à la mise en œuvre d'une politique d'asile juste, efficace et pleinement conforme à nos principes constitutionnels et aux engagements internationaux de la France. Confère les vœux 2018 du vice-président du Conseil d'État.
Alors, moi je m'appelle Léo Bert, j'ai 26 ans et je suis membre de l'intersyndicale à la CNDA, donc le CIPS, FO et CGT. Et voilà, on essaie de coordonner et de faire poursuivre cette grève qui a débuté le 13 février 2018.
D'accord, donc c'est une intersyndicale qui se mobilise pour les agents, les rapporteurs et le personnel de la CNDA, mais il y a aussi les avocats qui ont emboîté le pas et qui font aussi une grève de leur côté, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Alors on a un certain nombre d'objectifs et de revendications communes, notamment sur le projet de loi, mais à côté de ça, l'intersyndicale qui représente tous les agents de la Cour, on est aussi justement pour porter un autre projet de justice, un projet de juridiction, et qui devrait faire évoluer des fonctions de pas mal de personnel, notamment des rapporteurs et des secrétaires d'audience, mais de toute façon, on se bat pour tout le monde et justement, pour en définitive, pour qu'il y ait un droit d'asile, une meilleure justice, en tout cas dans cette cour. Derrière les murs.
Donc là, on est dans la cour. On n'a pas le droit d'enregistrer, bien évidemment, les audiences du tribunal.
C'est parce que c'est la confidentialité de la demande d'asile, en fait, qui est centrale. Il y a des gens qui ont vécu des persécutions, y compris commises par les autorités de leur pays. Et on ne peut pas se permettre qu'il y ait des informations sur leur vie personnelle, sur leur ressenti, qui soient écoutées par tout le monde. On ne peut pas ni filmer, ni enregistrer.
Les revendications en ce moment des grévistes, c'est d'une part défendre le droit d'asile, mais aussi défendre vos conditions de travail pour justement pouvoir appliquer le droit d'asile en France comme vous pensez qu'il doit être défendu, quoi, c'est ça ?
Oui, alors il y a vraiment cette partie sur le projet de loi dont on conteste l'ensemble de la philosophie, où on pense qu'il y a des propositions dans ce projet de loi qui sont contraires au droit effectif à un recours, au droit de la défense et donc in fine au droit d'asile. Mais de l'autre côté, il y a aussi dans ce projet de loi certaines mesures, notamment ce qui va réduire à 6 mois l'ensemble de l'instruction partie OFPRA et devant la Cour nationale du droit d'asile, ça va être des mesures qui vont atteindre gravement à nos conditions de travail et donc qui vont aggraver cette cadence, cette charge de travail. Et donc, en définitive, au final, ça va aussi, en pesant sur nos conditions de travail, réduire la qualité, à notre sens, de la justice qu'on est en droit d'attendre de la Cour nationale du droit d'asile. Donc il y a vraiment ces deux volets. D'un côté, la philosophie du projet de loi et des mesures concrètes qui sont proposées d'être mises en place qui ne sont, à notre sens, pas bonnes. Et de l'autre côté, il y aura une précarisation, si vous voulez, une aggravation de nos conditions de travail qui va être engendrée par ce projet de loi. Donc il y a vraiment les deux versants.
Je crois que dans la grande majorité, les députés, à la fois de La République En Marche et du Modem, une partie des constructifs également, voteront ces textes.
Un texte sur l'immigration et l'asile, porté par le ministre de l'Intérieur, qui vise notamment à expulser davantage d'étrangers en situation irrégulière.
Et donc la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA, où on est là en ce moment, c'est une cour qui est assez jeune, quoi, qui a été créée il y a quelques années.
Oui, alors avant 2009, c'était la Commission des recours et des réfugiés, la CRR. Et depuis 2009, donc, c'est devenu la Cour nationale du droit d'asile. On n'est plus rattaché au ministère des Affaires étrangères comme on l'était avant. Maintenant, on dépend directement du Conseil d'État, qui est notre autorité de tutelle. Donc il y a tout cet effort de juridictionnalisation pour le droit d'asile. Donc on a aujourd'hui une vraie cour de justice, même si encore beaucoup de choses qui demeurent à améliorer selon nous.
Et notamment les contrats de travail dont vous bénéficiez ou dont vous pâtissez, c'est ça, beaucoup de CDD ?
Oui, il y a beaucoup de CDD, de contrats précaires en fait. Par exemple, pour nos fonctions de rapporteur, il y a près de 90% des personnes qui sont rapporteurs qui sont en condition de précarité au sens où ils ont un CDD. Et ça nous semble très, très étrange parce qu'on est une cour de justice, donc on est la justice de l'État français, c'est une fonction régalienne et pourtant c'est des contractuels et pas des titulaires de la fonction publique qui l'exercent au niveau de nos responsabilités, et ça nous semble très étrange.
Hashtag baisse de la norme. Chacun s'en rend bien compte, statuer sur le recours d'un demandeur d'asile requiert de nombreuses compétences, ainsi qu'une approche humaine indispensable à l'abord de parcours de vie qui peuvent être douloureux. Confère vœu de la présidente de la Cour. Voilà, tout ça, c'est des références à des citations qui sont repris par les grévistes et remis en question. Justice de qualité pour le pays de la liberté. Voilà, on est devant la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA.
Asile en colère ! Asile en colère ! Asile en péril !
Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette cour alors ? C'est un peu le bout de la chaîne des demandeurs d'asile en fait. Après, c'est ou l'avion, l'expulsion, l'OQTF, ou l'asile qui est obtenu, quoi, c'est ça, en dernier recours.
En dernier recours, effectivement, la Cour nationale du droit d'asile est chargée de l'examen des demandes des demandeurs d'asile qui ont obtenu une décision de rejet de la part de l'Office français des apatrides et des réfugiés, l'OFPRA. Et on examine leurs demandes en plein contentieux, ce qui veut dire qu'on leur donne une deuxième chance. On revoit l'entretien qu'ils ont fait à l'office, on étudie leur récit initial, une confrontation avec le contexte géopolitique, on examine les moyens juridiques qui nous sont soulevés pour contester la décision de l'office. Ce qui nous incombe, c'est de savoir si entre les mailles du filet, ceux qui ont été rejetés n'ont pas été en capacité de pouvoir bien exposer le jour de leur entretien, leur parcours et les craintes qu'ils ont dans leur pays. Donc on leur donne véritablement une deuxième chance d'examen à la Cour.
Alors aujourd'hui, vous êtes rapporteur, c'est ça ici ? Vous êtes agent donc de la CNDA, rapporteur hein ?
Je suis rapporteur en charge de l'instruction des dossiers des demandeurs d'asile. Ce qui signifie que effectivement j'ai une responsabilité à l'égard des demandeurs d'asile, d'instruire leur dossier objectivement, de faire en sorte qu'ils soient bien entendus par le juge de l'asile. Je fais en sorte de produire un rapport que je présente oralement à la cour lors d'une audience publique et j'interroge le demandeur d'asile en posant des questions à la formation de jugement, en interpellant la formation de jugement pour établir la crédibilité de sa demande. Et au final, savoir si on peut lui attribuer la qualité de réfugié ou une protection subsidiaire. Dans le cas d'une demande pour raison politique, crainte pour raison politique, ce sera le statut de réfugié et non la protection subsidiaire.
Hashtag baisse de la norme. Si la Cour a su surmonter les difficultés de la tâche, elle n'en a pas pour autant négligé les conditions de travail de ses agents. Confère vœu 2018 de la présidente de la Cour. Hashtag fait non établi.
Nous rendons la justice au nom du peuple français. Nous participons à rendre la justice au nom du peuple français sur une question qui est fondamentale, qui est un droit fondamental, qui est un droit constitutionnel, qui est le droit d'asile. Je suis en grève aujourd'hui depuis 24 jours parce que, tout simplement, nos conditions de travail sont détériorées et cette situation va s'aggraver avec le projet de loi Asile et Immigration qui a été présenté le 21 février au Conseil des ministres et qui sera débattu prochainement à l'Assemblée nationale. Il faut que nos décideurs prennent en compte les petites mains qui sont des grandes plumes pour la juridiction qui est la Cour nationale de droit d'asile. Les rapporteurs, les secrétaires, les membres des fonctions support, le BAGE, qui est le bureau d'aide juridictionnelle, le service central d'enrôlement. Il faut prendre en compte les petites mains qui sont les chevilles ouvrières qui permettent à la France de produire, au jour d'aujourd'hui, plus de 47 000 décisions statuant sur l'octroi ou non du statut de réfugié et de la protection subsidiaire. Parce que nous clamons haut et fort que si nous avons des conditions de travail améliorées, le droit d'asile sera plus fort parce que nous pourrons instruire les dossiers dans de bonnes conditions, parce que ce sont des vies qui sont en jeu, ce sont des personnes qui ont quitté leur pays dans des situations difficiles. Personne ne quitte son pays parce qu'il le veut. Quand il demande une protection à la France, nous avons le devoir de faire en sorte que l'examen de leur demande se fasse dans de bonnes conditions. C'est notre devoir.
Justice de qualité pour le pays de la liberté. Vous prenez des photos ?
Non, photos, oui.
Vous êtes demandeur d'asile ?
Demandeur d'asile.
Vous vous attendez alors ? Vous êtes passé déjà ?
Après.
Et votre audience est maintenue ?
Oui.
Ouais, d'accord. Ça fait combien de temps que vous avez déposé, vous, votre demande d'asile ?
Demande d'asile. One month. One year.
One year.
Ah.
Ouais, ça fait un an que vous attendez. Ouais.
One year, you stay here. C'est for one year, demande d'asile. OFRA, négatif.
Ouais, l'OFRA a refusé la demande d'asile. Mais aujourd'hui, vous passez. It's okay for today.
Ah, ok.
Bon.
Ok, merci.
Good luck.
Good luck.
vous passez aussi ?
Non, je suis avocat.
Ah, vous êtes avocat,
oui.
D'accord. Et vous soutenez la grève ?
Non, je suis déjà passé aussi.
Ah ouais ?
Il y a peut-être 10 ans même.
Vous avez obtenu aussi. Donc
oui.
L'asile, mais en recours aussi ?
Oui, en recours à l'époque. Moi, je suis originaire de République démocratique du Congo. Donc quand je suis arrivé ici, c'était déjà la République démocratique du Congo, voilà. Oui, bien sûr, je suis solidaire des grévistes. Hein. Moi, personnellement, je crois que ça fait une dizaine d'audiences pour lesquelles j'ai demandé de renvoi. Donc j'en ai fait que deux parce que les requérants venaient de province et qu'ils avaient pris leur billet. Mais sinon, que ça nous coûte au portefeuille, mais on accepte. Hein. Il faut faire cette grève parce que c'est... Il y va même de la crédibilité de l'asile. Voilà. Nous le faisons surtout pour les demandeurs d'asile parce que c'est important pour eux. Il faut qu'on ait quand même des délais, qu'on soit sûr qu'ils sont notifiés des décisions parce que la nouvelle loi, effectivement, comportera, si elle est adoptée en l'État, effectivement, quand même, elle va porter quand même atteinte à certains principes du droit français. Voilà.
Et là, paradoxalement, est-ce que ça pénalise pas les requérants là, de ces derniers jours ?
Non, ça ne les pénalise pas. Moi, personnellement, je prends soin de vérifier auprès des requérants Normalement, s'ils ils perçoivent l'ADA, ça signifie l'allocation des demandeurs d'asile, ça leur permet de vivre, hein, c'est à peu près 360 euros. Il faut dire que certains requérants ne profitent pas de cet ADA. En fait, ils ne sont pas, on leur attribue pas cet ADA parce qu'ils sont en procédure prioritaire. Donc, pour cela, effectivement, il faudrait qu'ils passent le plus tôt possible parce que c'est une question de survie. Mais pour ceux qui ont l'ADA, donc même si on reporte de 2 ou 3 mois, c'est pas grave, l'essentiel est qu'il soit défendu dans des bonnes conditions. Je pense que c'est ça qui est important.
Et vous, vous plaidez dans le cadre de l'aide juridictionnelle ou alors c'est plutôt avec des clients? Comment un demandeur d'asile arrive à gérer toutes ces démarches? C'est quand même très compliqué.
Alors, c'est très compliqué, surtout pour ceux qui ne parlent pas français. Moi, je fais à peu près 120 à 150 dossiers l'an. Sur les 150, j'en ai très peu qui sont choisis, donc payants. Donc le reste, c'est l'aide juridictionnelle. Alors, certains nous sont attribués directement quand ils s'adressent à la CNDA. Il y a le bureau d'aide juridictionnelle qui désigne l'avocat. Mais d'autres, moi, à peu près, disons 30 à 40%, c'est du bouche à oreille. Donc, soit ils m'ont vu, soit ils ont entendu parler de moi par un autre requérant. Ils viennent vers moi, mais bien sûr, me posent la question en disant « Est-ce que vous prenez l'aide juridictionnelle ?» Je dis « Oui, bien sûr, je vous défends l'aide juridictionnelle. » Mon nom, c'est Mulan Delic, Eric le prénom, voilà. Je suis avocat au barreau de Haute-Seine.
Merci,
Antoine. C'est moi.
Je dors en Venelle, près de mes frères d'infortune. J'ai faim, souvent j'ai mal, j'ai peur de leur police. Ils viennent dans la nuit, nous délogent et me brisent. Ils viennent dans la nuit, mais je m'enfuis déjà. Je t'écris de la France, où l'on ne vit qu'à pas lent, où l'on meurt en rue sombre, où l'on erre. Où es-tu, mon amour, au plus profond du monde? Où es-tu, mon amour? M'entends-tu de là-bas, de là-bas? Je t'écris de la France.
Et aujourd'hui, mercredi 7 mars, c'est un rassemblement devant l'Assemblée nationale à l'appel des avocats de l'association ELENA qui regroupe les avocats spécialisés dans le droit d'asile. Et il y a une centaine d'avocats en robe devant l'Assemblée nationale et une délégation de la CNDA qui s'approche avec des chasubles oranges. Alors, la Cour nationale du droit d'asile en grève.
Exactement.
Vous avez une petite...
Oui, en fait, c'est les dossards.
Un petit dossard.
Oui, tout à fait. Les dossiers de demandeurs d'asile, ils sont roses comme ça. On a mis un code barre pour bien représenter que c'était juste des numéros et que du coup, on devait faire de l'abattage chiffré des demandeurs d'asile. Donc, c'est tout notre mouvement qui est basé un peu sur cette idée de base. Donc,
ensemble, pour la même cause.
Alors, pourquoi vous venez devant l'Assemblée nationale aujourd'hui?
C'est important de mettre les parlementaires devant leurs responsabilités parce qu'on sait qu'au sein de la majorité, en fait, il y a beaucoup de dissensions, mais il y a aussi une discipline de vote, manifestement, du côté macroniste. Alors, il y a beaucoup de députés qui ont dit qu'ils allaient quand même voter cette loi affreuse, mais que individuellement ils étaient contre. Donc, on comprend pas trop où est leur liberté de parlementaire, mais on va voir.
Il y a une AG là. Ah ouais, je vous en prie. Ne tuez pas la Convention de Genève 50 ans. C'est votre banderole qui m'interpelle. Voilà.
La Convention de Genève, c'est le texte fondateur du droit d'asile. Donc, c'est le texte qu'on doit respecter dans toute. À la fois les décisions, mais aussi les textes de loi qui sont pris en France. Donc, il nous semble que le projet de loi tel qu'il est présenté méconnaît l'esprit de la Convention de Genève, parce que de facto, si le projet est voté, on ne pourra plus travailler sereinement en asile et nos clients, les justiciables, ne pourront pas obtenir l'asile. Donc, la Convention de Genève et le respect de l'esprit de la Convention de Genève, c'est effectivement modifier sensiblement le projet tel qu'il est présenté et dont l'utilité ne nous apparaît pas.
Alors vous êtes ?
Moi, je suis avocate au barreau des Hauts-de-Seine, Véronique Picard-Masson.
Dublin tue. Des papiers pour tous, toutes ou pas de papiers du tout. Reconduire Colomb, Gérard à la frontière.
Comme un bruit qui court, selon que vous soyez vautour ou migrant, les frontières seront plus ou moins franchissables. C'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve samedi prochain à 16h.